Il est 16h à Paris, 15h en temps universel. Et c'est l'heure du journal présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous. À la une, une visite de l'émissaire américain à Kiev peut-elle à elle seule effacer les déclarations très offensives et répétées de Donald Trump contre Volodymyr Zelensky? Le président ukrainien est en colère et le fait savoir. Après les accusations du locataire de la Maison-Blanche, Moscou apprécie le virage diplomatique entériné à la réunion de Riyad. La France s'interroge aussi après les propos de Donald Trump et organise une nouvelle réunion à l'Élysée. Par visioconférence en ce moment même, des Européens et leurs alliés appelés à s'unir pour exister face aux cavaliers seuls des États-Unis. Enfin, nous parlerons foot et la suite des matchs de barrage retour de la Ligue des Champions avec le choc entre le Real Madrid et Manchester City en direct sur RFI ce soir. Volodymyr Zelensky voudrait bien emmener Keith Kellogg sur le front, histoire peut-être que l'émissaire américain voit par lui-même les dégâts provoqués par les Russes. Le président ukrainien ne décolère pas après de nouveaux propos incendiaires de Donald Trump et la réunion russo-américaine de Riyad, à laquelle il n'a pas été convié. Il a de nouveau répondu au président américain lors d'une conférence de presse aujourd'hui. Selon lui, le nouveau locataire de la Maison-Blanche vit dans un espace de désinformation russe. La mission de Keith Kellogg est décidément délicate. À Kiev, Emmanuel Chaz.
Keith Kellogg arrive dans un contexte tendu en Ukraine puisque Donald Trump s'est lancé dans une véritable tirade de mensonges à l'égard de Kiev en questionnant notamment la légitimité de Volodymyr Zelensky et en inventant une cote de popularité fantaisiste au président ukrainien. Trump parle de 4% de l'opinion ukrainienne favorable à Zelensky alors qu'elle est actuellement de 57%. Il accuse également Kiev d'avoir commencé la guerre, qu'elle fait de Moscou, s'il faut le rappeler, qui lance des bombes sur l'Ukraine de façon quotidienne. La nuit dernière, Odessa a été touchée par des drones. Plusieurs personnes ont été blessées et plus de 160 000 sont toujours sans électricité, alors qu'on a ici des températures en dessous de zéro. Keith Kellogg restera en Ukraine pendant 3 jours. On ne sait pas encore s'il acceptera la proposition ukrainienne de se rendre près de la ligne de front, mais l'envoyé spécial de Washington affirme qu'il comprend le besoin de garanties de sécurité et l'importance de la souveraineté de la nation ukrainienne. À l'issue de cette visite, il partagera ses impressions à Washington. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et les propos offensifs et réitérés de Donald Trump contre Volodymyr Zelensky ont été commentés à l'Élysée lors du Conseil des ministres ce matin. Écoutez la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
Le président de la République a abordé la position des États-Unis au travers des propos divers et variés et souvent peu compréhensibles de la position des États-Unis par le président Trump. Le président Trump fait des déclarations au fil des jours, toutes extrêmement volontariste, sans évidemment consulter les pays européens, pas plus la France que les autres pays européens, et dont on cherche la cohérence dans le temps. Les discussions d'hier et les déclarations d'hier de Monsieur Trump sont dans cette lignée. Nous ne comprenons pas bien la logique américaine.
Sophie Prima, porte-parole du gouvernement français, et Paris est de nouveau à la manœuvre cet après-midi sur le dossier ukrainien. Pour éviter à l'Europe d'être définitivement sur la touche, Emmanuel Macron mène en ce moment même de nouvelles discussions à l'Élysée avec ses partenaires. Par visioconférence, un format élargi après une première réunion lundi, les pays baltes et la Finlande notamment sont représentés, ainsi que des alliés des 27 au sein de l'OTAN comme le Canada. Toujours en France, de justesse, à une voix près, le Parlement a approuvé à la mi-journée la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel, un choix du président très contesté, notamment en raison de la proximité politique et personnelle entre les deux hommes. Les députés Rassemblement national ont finalement décidé de s'abstenir et donc de permettre sa nomination. Sa haute juridiction est chargée de vérifier la conformité des lois à la Constitution française. En France, toujours au troisième jour du procès des hommes accusés d'être les geôliers de l'État islamique, dont les Français Medine Mouche et Abdelmalek Tanem, présents dans le box, la parole est au journaliste français, ancien otage du groupe terroriste en Syrie. Des témoignages très attendu à la Cour d'assises spéciale de Paris. Le récit du photographe Édouard Elias était glaçant ce matin. Tout juste 22 ans au moment de son enlèvement, il a raconté les sévices quotidiens et reconnu formellement Mehdi Nemmouche qui nie sa participation. Direction l'Inde à présent, où le suicide d'une étudiante originaire du Népal provoque des remous diplomatiques entre les deux pays. Exclus de leur université indienne pour avoir manifesté après sa mort, des centaines d'étudiants népalais ont été réintégrés face à l'indignation de Katmandou. Le gouvernement local a finalement promis une enquête pour tenter d'apaiser les tensions. La correspondance de Côme Bastin.
Les Népalais sont une communauté pauvre en Inde et victime de discrimination. L'escalade a commencé lorsque Prakriti Lamsal, 20 ans, s'est donné la mort dans l'état de l'Orissa. Selon sa famille, elle aurait été harcelée par un autre étudiant et l'université serait restée sourde à sa détresse. En réaction, de nombreux étudiants népalais ont manifesté pour réclamer une enquête sur sa mort. La réponse de l'université a fait exploser l'affaire. L'intégralité des étudiants népalais ont été renvoyés sans ménagement. Et ils étaient nombreux, près de 800 auraient dû regagner leur pays. De quoi provoquer l'indignation. À Katmandou, où le Premier ministre s'est élevé contre cette décision brutale, le ministère de l'Éducation a même menacé de suspendre l'envoi d'étudiants en Inde. Depuis 24 heures, le gouvernement de l'Orissa fait tout pour calmer la colère du Népal, pays voisin et ami de l'Inde. Une enquête a été ordonnée sur ce suicide. Plusieurs employés de l'université accusés d'avoir maltraité des Népalais ont été arrêtés. Enfin, les étudiants suspendus ont été priés de bien vouloir revenir. Côme Bastin, Bangalore, RFI.
Au Proche-Orient, le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages restants dans la bande de Gaza lors de la deuxième phase de la trêve, plutôt qu'au compte-gouttes, comme cela s'est passé jusque-là. Cette deuxième phase doit mener à la fin définitive de la guerre et la libération de tous les otages d'ici au 2 mars. En attendant, Israël ne confirme pas la présence des corps de la famille Bibas parmi les dépouilles qui seront restituées demain à l'État hébreu. Selon le Hamas, au total, 4 corps seront remis, dont ceux de Shiri, la mère, et ses 2 enfants, Kfir et Ariel, âgés respectivement de 9 mois et de 4 ans au moment de leur capture le 7 octobre. Le père, Yarden Bibas, avait été libéré le 1er février. 6 Israéliens en vie doivent être relâchés, eux, samedi. En RDC, la localité de Kamanyola est tombée aux mains du M23 soutenu par le Rwanda. Ils se sont emparés de la ville du sud Kivu après des combats qui ont duré plus d'une heure hier. Selon nos informations, Didier Mazanga, envoyé spécial du président Tshisekedi, a rencontré Mahamat Idriss Déby. Les autorités de RDC demandent un appui militaire au Tchad selon une source proche du dossier. Du football pour terminer, ne manquez pas ce soir la diffusion en intégralité des matchs de barrage retour de la Ligue des Champions sur RFI à partir de 19h40, temps universel. 4 matchs au programme, notamment le choc entre le Real Madrid et Manchester City. Une semaine après la victoire des Espagnols 3-2, les Anglais veulent inverser la tendance, mais ils ne partent pas du tout favoris. À Madrid, Cédric De Oliveira.
Cette saison est un chemin de croix pour Pep Guardiola, alors il s'offre quelques facéties après avoir déclaré que son équipe avait 1% de chance de se qualifier après la défaite 3-2 contre le Real au match aller. Il a fini par le reconnaître, il y est allé un peu fort.
Mais vous m'avez vraiment cru quand j'ai parlé de ce 1%? Pour une fois, vous avez raison, j'ai menti. Ça me change. À chaque fois que je dis ce que je pense, vous ne me croyez jamais. La vérité, c'est qu'après la défaite, personne ne misait un centime sur nous. Là, un peu de temps est passé et je me dis qu'on va tout tenter. C'est évident.
Le boss de City espère un réveil de ses troupes. Mbappé, Bellingham et Vinicius seront encore là pour torturer la défense anglaise. En vieux sage, Carlo Ancelotti se veut lui prudent sur les chances de ses protégés.
Nous, on ne pense pas avoir 99% de chance. On a un petit avantage qu'il va falloir exploiter en tentant de faire aussi bien qu'au match aller. Ça avait bien fonctionné.
Équation simple pour le Real qui en plus pourrait bénéficier du forfait d'Erling Haaland. Le Norvégien, double buteur à l'aller, s'est blessé ce week-end en championnat. Il a fait le déplacement dans la capitale espagnole, mais si son absence se confirmait, ce serait un coup de massue pour Manchester City. Cédric de Oliveira, Madrid, RFI.
Real Madrid, Manchester City, coup d'envoi à 20h, temps universel.